Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, nous sommes en train de perdre la course contre la montre. 120 dirigeants réunis pour la conférence climat à Glasgow. Les Russes, Chinois, et c'est la surprise du jour, le dirigeant turc sont absents. Hier, les pays du G20 ont promis de ne plus financer les centrales à charbon en dehors de leurs frontières. Alors que s'ouvre cette COP26, le climatologue Jean Jouzel est avec Frédéric Pommier tout à l'heure à 13h45, le temps d'une chanson. Et ce sera la première page de ce journal. Le Covid, plus de 5 millions de morts en moins de 2 ans. Le cap vient d'être franchi et c'est un chiffre sous-estimé selon les spécialistes. Paris et Londres fâchés à la criée. Le différend sur les licences de pêche prend une nouvelle ampleur. La France menace de refuser les pêcheurs britanniques dans ses ports dès demain. Ministre britannique fâché.
La France a formulé des menaces totalement déraisonnables. Ils doivent les retirer. Ce problème doit être réglé dans les 48 heures qui viennent.
La chef de la diplomatie à Londres où nous irons retrouver notre correspondant. Dans l'actualité encore, effet Covid et pénurie de composants électroniques, le marché automobile chute en France. La belle histoire du jour, quand les spécialistes de jeux vidéo récoltent plus de 10 millions d'euros pour Action contre la faim. Et puis à l'approche des Jeux d'hiver, nous irons visiter la piste de bobsleigh près de Pékin. Vos rendez-vous dans le 13-14 à 13h30 en ce lundi de Toussaint, veille du jour des défunts. Famille recomposée, Pax, divorce, mariage homo, les bouleversements de la famille se voient aussi dans les cimetières. Et la défenseur des droits appelle à une modification du droit funéraire pour en tenir compte. Alors avez-vous rencontré des difficultés au moment d'une inhumation, crémation ou de renouvellement d'une concession? Nous attendons vos témoignages et questions dès maintenant 01 45 24 7000 et l'appli France Inter. La défenseur des droits Claire Hédon est notre invitée à 13h30. Le feuilleton, une semaine dans la vie d'un tiers lieu où se réinvente la société. Nous irons en région bordelaise, Bordeaux, d'où venait Montaigne, qui sera au cœur du vif de l'histoire de Jean Lebrun. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Elle jalonne l'histoire de ces 30 dernières années et marque l'importance prise par le dérèglement climatique dans l'actualité du monde. Les conférences climat, sommet de Rio, conférence de Kyoto, COP21 à Paris et à partir d'aujourd'hui, la COP26 à Glasgow, Écosse. 120 chefs d'État attendus, 3 grands absents, le chinois Xi Jinping, le russe Poutine et le turc Erdogan. Absence de dernière minute, on en parle dans un instant. Mais ce qui marque aussi ces 30 dernières années, c'est la place toujours plus importante des citoyens et organisations non gouvernementales dans la lutte contre le dérèglement. Le lever de rideau de la COP de Glasgow, ce sont donc les arrivées des dirigeants, mais aussi la pression mise par les manifestants. Rappelons que l'accord de Paris fixait comme objectif de limiter la hausse des températures entre plus 1,5 et 2 degrés d'ici à la fin du siècle. Par rapport à la révolution industrielle, les engagements pris depuis mèneraient à un réchauffement de 2,7 catastrophique. Selon l'ONU, il faut aller plus loin. Première manif, première mise sous pression aujourd'hui donc à Glasgow. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
Vous êtes l'envoyé spécial de France Inter à Glasgow et vous étiez ce matin avec les militants français devant le siège de la COP.
Oui, au moment de l'ouverture des portes de la COP26, ils sont une trentaine postés en rang devant les grilles de l'entrée principale, à côté du flot humain de gens avec un badge autour du cou qui font la queue pour entrer. Et leur sono crash du Greta Thunberg remixé, la militante suédoise et son désormais fameux blablabla pour parodier les discours des chefs d'État sur le climat. En signe de protestation, les militants français brandissent des portraits officiels d'Emmanuel Macron, tenus à l'envers, la tête vers le bas.
On va montrer ces portraits symboles du vide de la politique climatique et sociale du gouvernement.
Ces militants ont suivi depuis Glasgow le sommet du G20 qui s'est déroulé ce week-end à Rome et qui devait servir de rampe de lancement à la COP26. Une occasion ratée selon Marie Covey de l'association ANV COP21.
La photo qui a circulé hier des chefs d'État qui jetaient une petite pièce dans la fontaine de Trévis pour se porter bonheur pour la COP à Glasgow, c'est une image qui est tellement violente. Encore une fois, ils ont fait des discours qui sont magnifiques. Hein. J'ai pas de problème avec ça, mais en termes d'action, on n'a rien. On a la répétition de ce qu'ils ont dit il y a 6 ans, c'est-à-dire l'objectif de 1,5 degré. C'est une blague.
Et une grande manifestation internationale pour le climat est prévue ce samedi à Glasgow.
Sandy Dauphin, en direct de Glasgow avec les moyens techniques de Martin Troadec pour France Inter. Il est minuit moins une, devrait dire l'hôte de ce sommet, le Premier ministre britannique Boris Johnson, à ses quelques 120 collègues qui arrivent en cette mi-journée dans la métropole écossaise. Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
Autre envoyé spécial de France Inter à Glasgow. La liste des absents parmi les chefs d'État et de gouvernement est aussi intéressante que celle des présents, Simon.
Oui, parce que si Joe Biden vient signer le grand retour des États-Unis, bien les chefs d'État des trois autres plus gros pollueurs du monde ont décidé tout simplement de sécher cette COP26. Le chinois Xi Jinping, le russe Poutine, le brésilien Bolsonaro, tous absents. Mauvais signal évidemment, même si leurs pays sont bien représentés ici à Glasgow. Et ce matin, c'est le turc Erdogan qui déclare forfait à son tour officiellement pour une affaire de protocole de sécurité. Alors dans tout cela, Emmanuel Macron voit une opportunité de s'afficher en leader du climat. Dans son discours cet après-midi, il va défendre son bilan et montrer que la France donne l'exemple, nous explique ses conseillers à l'Élysée.
Alors Simon, le sommet international n'est donc pas autant que le voudraient les militants. Et d'ailleurs, beaucoup de délégations ont du mal à accéder au lieu.
Des délégations de pays pauvres, derniers responsables mais premières victimes du dérèglement climatique, petits états insulaires du Pacifique, pays africains, pourtant discriminés par les exigences sanitaires, PCR à l'arrivée, autotest obligatoire chaque jour, alors qu'eux-mêmes n'ont pas ou ont peu eu accès aux vaccins et aux tests. Des délégués lésés aussi par les prix exorbitants des logements, 400 euros par exemple pour une chambre d'hôtel en centre-ville. Le gouvernement britannique a fait des efforts en dernière minute en réduisant notamment sa liste des pays sur liste rouge, mais c'est l'une des grandes inquiétudes de cette COP, que les pays du Sud soient sous-représentés face à ceux du Nord, alors même que le climat est déjà à la défiance. Les 100 milliards de dollars par an promis par les pays riches à partir de 2020 ne devraient finalement arriver qu'en 2023.
Simon Le Baron, vous aussi avec Martin Troadec pour les moyens techniques de France Inter. La COP26 doit durer 2 semaines. Elle a été précédée, Sandy nous le disait hier à Rome, par le G20, les pays les plus développés et qui représentent 80% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. L'objectif de limite à plus 1,5% du réchauffement en 2100 est confirmé. On y ajoute un nouvel horizon, la neutralité carbone en 2050. Et parmi les actes posés, la fin des subventions aux centrales à charbon à l'étranger. Alors, quelle est l'ampleur de cette décision? Pour le mesurer, avec nous, Sébastien Treillère, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous aussi, vous êtes à Glasgow, directeur général de l'IDRI, l'Institut de Développement Durable et des Relations Internationales. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que l'Europe, les États-Unis, les grandes organisations internationales vont cesser de financer les projets ou activités des centrales à charbon à l'étranger, c'est bien ça? Et est-ce que c'est un vrai changement?
C'est un changement qui a commencé à être annoncé déjà depuis 2 ans. Mais là, aujourd'hui, on a une confirmation très forte. Et la Chine l'avait déjà annoncé à l'Assemblée générale des Nations unies en septembre dernier. Mais que le G20, dans son ensemble, y compris les grands financeurs asiatiques, le Japon, la Corée du Sud et la Chine, et pas seulement l'Europe et les États-Unis, qui s'engagent à ne plus financer de centrales à charbon au Sud, c'est la moindre des choses, on pourrait dire. Mais c'est quand même une étape extrêmement importante qui est franchie. Bon. On aurait espéré un langage un peu plus ambitieux sur l'arrêt du charbon aussi dans leurs propres économies, mais ça on l'a pas eu à cause de l'opposition d'un certain nombre de pays. On pense aussi notamment à la Russie, à l'Australie, la Chine n'a pas eu besoin de bloquer puisque d'autres s'en sont occupés en cours de route.
C'est l'enjeu principal pour vous de cette COP26, Sébastien Treillère, le charbon et contraindre ou amener la Chine à réduire ses activités en matière de charbon?
Je pense pas que ça soit vraiment atteignable pendant cette COP. Ce qu'on veut absolument, c'est que cette COP permette de rendre un peu plus concret les engagements qui ont été pris, qui ont été déclarés hier au G20. Ouais. Je voudrais juste souligner qu'on a évité le scénario du pire avec le G20. On a des résultats, on a du langage qui est intéressant, et maintenant il faut attendre des pays des chefs d'État qui vont être soit en vidéo, soit par un message écrit, mais qui vont déclarer des choses aujourd'hui. Comment est-ce qu'ils vont concrètement augmenter l'ambition de leurs engagements à 2030 pour être cohérent avec cet engagement de neutralité carbone en 2050. Si on veut être à la neutralité carbone en 2050, il faut changer dès maintenant et que ça se voit dans les objectifs qu'on se donne à 2030. Et probablement, ce qu'on peut attendre de Glasgow, c'est qu'ils se disent on a une clause de rendez-vous pour essayer d'augmenter notre ambition qui sera soit l'année prochaine, soit dans 2 ans, mais on ne va pas attendre de nouveau 5 ans pour se faire un nouveau test de notre ambition.
Et de la Chine, précisément, que peut-on attendre?
Je pense que de la Chine, ce qu'on attend, c'est que précisément, elle accepte de dire revoyons-nous d'ici 1 ou 2 ans pour augmenter encore notre ambition. Oui. La Chine est un pays où la technologie va vite, où la modernisation de l'économie et la transformation de sa structure va vite. Et moi, je fais le pari que dans 2 ans, le gouvernement chinois pourrait être encore plus ambitieux qu'il ne l'a été aujourd'hui, parce qu'en fait, il n'aurait pas vraiment besoin de toutes les centrales à charbon dont il est en train de parler aujourd'hui en interne.
Et qui exporte aujourd'hui des centrales à charbon?
Je pense qu'il faut voir qu'il y a de l'exportation et puis il y a du soutien financier. Beaucoup de, je le soulignais tout à l'heure, c'est beaucoup de pays asiatiques hein, oui. qui continuent à soutenir le charbon. Important de souligner aussi que les pays du sud asiatique qui recevaient ces investissements, le Pakistan, le Sri Lanka, ont dit non mais moi je ne veux plus de centrales à charbon non plus. Donc c'est vraiment le sens de l'histoire qui est en train de s'écrire ici. Et ça c'est très important. Maintenant, il faut aussi sortir la Chine de son propre charbon, sortir l'Australie de son propre charbon. Et ça c'est un vrai défi. Mais je ne crois pas qu'il soit, c'est pas ce qu'on peut attendre aujourd'hui à la COP. Ce qu'on veut attendre aujourd'hui de la COP, c'est des engagements de se revoir plus tôt que prévu pour avoir de nouveau un moment clé pour mettre la pression sur ces gouvernements, que la société civile puisse mettre la pression sur ces gouvernements.
Accélérer le calendrier, on a bien compris. Qu'est-ce que vous attendez d'autre de cette COP, vous qui dirigez l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales, Sébastien Treyer?
Alors l'autre point qu'on attend absolument de cette COP, c'est qu'elle sorte d'une crise de confiance qui est extrêmement patente aujourd'hui. Hein. On attend une espèce de deal de Glasgow où les pays les plus développés, y compris la Chine, hein, s'engagent, comme on le disait, sur le fait d'être ambitieux pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et aussi pour financer l'adaptation dans les pays du Sud, financer la transformation vers une économie pauvre, basse en carbone pour les pays du Sud, mais surtout financer l'adaptation dans les pays du Sud. Et là, depuis... L'engagement était qu'à partir de 2020 jusqu'à 2025, il y aurait 100 milliards par an de financement public et privé des pays du Nord vers les pays du Sud. On plafonne à 80 milliards d'euros depuis 2018. Et là, il faut vraiment qu'il y ait un engagement fort de se dire comment est-ce qu'on va rendre des comptes pour que les 600 milliards d'euros sur 6 ans, 2020-2025, ça fait 6 ans à 100 milliards d'euros par an, 600 milliards d'euros par an, comment est-ce qu'ils vont sortir des caisses et comment est-ce qu'une bonne partie va aller sur l'adaptation. Si on n'a pas ça, on sera vraiment en crise de confiance.
Accélérer le calendrier, améliorer la confiance et débloquer des fonds pour le Sud. Voilà trois enjeux. Merci Sébastien Treyer d'avoir pris quelques minutes pour répondre à nos questions. Alors dans la lutte contre le changement climatique, il y a les grandes négociations internationales comme celle de Glasgow. Puis il y a les actes posés par nous tous dans la vie quotidienne et par les entreprises. Chaque décision ne change pas la face du monde, mais mise bout à bout, cela dessine un nouveau modèle. Un exemple, le groupe Monoprix qui vient d'inaugurer ce qu'il présente comme une première mondiale. La première plateforme logistique neutre en carbone. La certification sera accordée après un an d'existence par un organisme international. Alors à quoi ressemble cet entrepôt zéro carbone? 100 000 mètres carrés en Seine-et-Marne pour le e-commerce, l'approvisionnement des magasins physiques en produits textiles, en déco, en beauté. Il est conçu, Agnès Soubiran, pour expédier à terme 45 millions de colis par an.
Installé sur un ancien site PSA pour éviter l'artificialisation des sols, l'entrepôt gigantesque a été construit avec du béton recyclé, en partie trouvé sur place, du bois certifié et bénéficie des dernières avancées de la technologie.
Historiquement, dans les bâtiments, soit on allume tout, soit on éteint tout. Là, on est capable dynamiquement d'allumer uniquement les zones qu'on utilise. Ça permet de diminuer la consommation d'électricité.
Sébastien Lézé, directeur logistique du groupe Monoprix. Ces nouvelles technologies ont un coût, en moyenne 15% plus cher, mais c'est un investissement rentable au-delà de l'aspect écologique.
Aujourd'hui, avec ces nouveaux matériaux, avec ces nouvelles technologies de géothermie, en enfouissant à 100 mètres de la chaleur ou du froid l'été ou l'hiver, couplé à cette nouvelle trajectoire du prix du gaz ou de l'électricité sans cesse plus cher, oui, évidemment, de plus en plus, ça deviendra une équation gagnante pour les entreprises.
Sur le toit du bâtiment, 45 000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Bien sûr, tous les entrepôts Monoprix ne sont pas aussi vertueux, mais Jean-Paul Mocher, président du groupe, a fixé des objectifs.
À l'aune de 2030, c'est divisé par deux nos émissions à gaz à effet de serre. Et puis en 2040, la neutralité carbone pour le groupe Monoprix.
Pour être tout à fait précis, ce bâtiment ne sera décarboné qu'à hauteur de 80%. Monoprix s'engageant à compenser les 20% restants par des plantations d'arbres en France.
Et la COP26, c'est à suivre sur France Inter et franceinter.fr, par exemple sur notre site internet, cette première journée de conférence en images. Et à Glasgow, Emmanuel Macron et Boris Johnson vont donc se croiser une nouvelle fois dans un moment de froid entre les deux pays. Le sujet le plus glacial en ce moment, c'est la pêche, ces dizaines de licences qui manquent aux professionnels français pour travailler dans les eaux britanniques. Paris et Londres s'accusent mutuellement de ne pas respecter l'accord post-Brexit. Demain, en principe, la France met en place des mesures de rétorsion, notamment l'interdiction pour les pêcheurs britanniques de débarquer leurs marchandises en France. Bonjour Richard Place.
Bonjour.
Correspondant de France Inter au Royaume-Uni. Le gouvernement britannique est monté d'un cran, d'un ton encore ce matin. Contrairement à ce que disait hier Emmanuel Macron, eh bien pour Londres, Richard, la balle est dans le camp de la France et non de la Grande-Bretagne.
Oui, parce que depuis le début de cette affaire, le Royaume-Uni se sent agressé et absolument pas en faute. Ici, le gouvernement ne cesse de répéter que c'est la France qui a créé ces tensions, d'abord avec ses menaces, Ensuite, avec le courrier de Jean Castex adressé à la Commission européenne et révélé il y a 3 jours, le Premier ministre français écrivait qu'il faut montrer, je cite, qu'il y a davantage de dommages à quitter l'Union qu'à y demeurer. Ce qui, traduit par Boris Johnson, devient « la France veut nous punir pour le Brexit ». Ce matin, Liz Truss, la ministre des Affaires étrangères, restait inflexible.
La France a formulé des menaces totalement déraisonnables. Ils doivent les retirer. Ce problème doit être réglé dans les 48 heures qui viennent.
La France a fixé un ultimatum qui s'achève demain. Au-delà, si ces pêcheurs n'ont pas reçu les autorisations qu'ils réclament, les chalutiers britanniques ne pourront plus décharger leur cargaison dans les ports français. Le Royaume-Uni ne bouge pas d'un pouce et prévoit de saisir la justice européenne, voire d'introduire également des mesures de rétorsion. Ce matin, dans le Times, un dessin illustre bien la situation. On y voit le président de la COP26 prononcer un discours rendu inaudible par Emmanuel Macron et Boris Johnson, lancé dans une bagarre effrénée à grand coup de poisson.
Richard Place en direct de Londres pour France Inter. Les pêcheurs français font état de baisse de chiffre d'affaires déjà très importante à cause de ce litige, jusqu'à moins 50% par exemple pour les pêcheurs des Hauts-de-France. C'est masqué que les chefs d'État se présentent en cette mi-journée à la COP26 de Glasgow, car qu'on ne s'y trompe pas, si l'urgence Covid a baissé en France malgré une reprise ces derniers jours, eh bien le monde vit toujours au rythme du virus. Il a provoqué en moins de 2 ans la mort de plus de 5 millions de personnes. 5 millions et 1871 femmes, hommes et enfants, selon le dernier bilan de l'université Johns Hopkins, l'un des sites de référence. Et encore, c'est largement sous-estimé pour beaucoup de spécialistes, car ce chiffre repose sur des décomptes officiels dans chaque pays. Mais restons tout de même sur ces 5 millions de morts. Alors que l'économie mondiale a été arrêtée une partie de l'année 2020, que les frontières se sont fermées, que les masques, gestes barrières et vaccins ont été activés dans une grande partie de la planète. Bonjour Olivier Bénis.
Bonjour Bruno.
Si l'on compare à d'autres épidémies et d'autres causes, disons, habituelles de mortalité, où se situe le Covid?
Alors prenons les cancers par exemple. D'après les chiffres de l'OMS, ils ont été responsables d'un peu plus de 18 millions de morts dans le monde depuis le 11 janvier 2020, le jour où l'on a identifié le premier mort du Covid, qui a donc fait, vous le disiez, lui, plus de 5 millions de morts depuis. C'est moins que la pollution de l'air, qui a tué 12 600 000 personnes sur la même période, mais beaucoup plus que les accidents de la route, par exemple, responsables de 2 300 000 décès dans le monde. Si l'on prend le total des morts, toutes causes confondues ces deux dernières années, eh bien, on constate que le Covid est responsable d'environ 1 décès sur 20.
1 sur 20. C'est aussi devenu, Olivier, la maladie infectieuse la plus mortelle de ces deux dernières années.
Oui, avec un peu plus de 7 500 morts quotidiens en moyenne depuis début 2020, c'est plus que la tuberculose, 4 110 morts par jour, les hépatites, 3 560 morts, ou le VIH, 2658 morts quotidiens. Et puis si l'on veut faire une comparaison historique, sachez que les 5 millions de morts du Covid sont heureusement très loin des 50 millions de morts estimés de la grippe espagnole de 1918 à 1919. En revanche, on est bien au-dessus des 3 millions de morts de la grippe asiatique, elle aussi en seulement 2 ans, de 1956 à 57.
Et ces chiffres et comparaisons, on les retrouve grâce à vous sur franceinter.fr. Merci Olivier Bénis. Malgré tout, dans une série de pays, l'heure est tout de même à l'assouplissement des mesures. La Thaïlande accueille à nouveau 140 des touristes vaccinés et issus d'une 60 de pays considérés à faible risque. Et puis près de 600 jours entre 19 et 20 mois après l'avoir fermé, l'Australie rouvre aujourd'hui sa frontière internationale. À Sydney pour France Inter, Grégory Pless.
Cela faisait près de 600 jours qu'on n'avait pas vu autant de monde à l'aéroport. Dans la salle des arrivées, de nombreuses familles sont venues accueillir leurs proches. Des proches qui ont pour certains du mal à croire qu'ils ont enfin pu poser le pied à Sydney. C'est par exemple le cas de Christine, dont les enfants vivent en Australie.
Jusque dans l'avion, je ne savais pas si à la douane, ils n'allaient pas m'arrêter.
Pour l'instant, peu de départs en vacances. La plupart des voyageurs prennent l'avion pour retrouver leur famille. Sharon, elle, part voir sa fille.
I'm heading over to Washington, D.C.
Je pars à Washington pour voir ma fille que je n'ai pas vue depuis plus de 2 ans, alors je suis assez impatiente.
Et tant pis si en quittant l'Australie, on s'expose au risque d'être en contact avec le virus. La vie doit reprendre son cours, d'après Jonathan.
Il faut qu'on reprenne une vie normale. On ne peut pas rester sur cette île toute notre vie.
La réouverture des frontières australiennes reste extrêmement prudente. Elle ne concerne pour l'instant que les Australiens et les résidents permanents et elle devrait être étendue aux étudiants et aux travailleurs qualifiés avant la fin de l'année. En revanche, pour les touristes, il faudra attendre 2022. Sydney, Grégory Pless, France Inter.
En France, le nombre des hospitalisations quotidiennes a augmenté de 10% en une semaine, en rappelant que les chiffres partaient de bas. Hors hôpital, 6329 nouveaux cas de Covid hier, on était à 5000 le dimanche précédent. D'autres chiffres qui racontent en partie les conséquences de cette épidémie, ce sont ceux, ce matin, des immatriculations de voitures neuves en octobre en France. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
En forte baisse.
En chute, clairement, comment le dire autrement, hein, 30% de véhicules vendus en moins au mois d'octobre, si l'on compare à octobre 2020. Plus qu'une rétrogradation, une perte de vitesse qui s'accélère, un coup dans le rétro suffit à s'en convaincre. En 2019, il y a deux ans, donc, on achetait près de 40% de voitures de plus qu'aujourd'hui.
Et la part des véhicules diesel parmi les achats de neufs continue de baisser.
Ouais, même si ce type de motorisation reste avantageux niveau coût pour de nombreux Français, il se vendrait pour la première fois en France plus de véhicules hybrides que de véhicules diesel, respect en fait d'une certaine logique. L'écart des prix à la pompe se rétrécissant peu à peu entre sans-plomb et gazole, et l'idée se propageant de plus en plus que le diesel n'est plus une solution pour demain. Durcissement des normes CO2, injonction faite aux constructeurs de diminuer de moitié les émissions carbone d'ici 10 ans, et primes à la conversion diverses font réfléchir les consommateurs plus que jamais. Si l'on ajoute les grandes villes qui parlent d'interdire cette motorisation à l'avenir, tout ça fait que oui, le diesel tousse et pousse le secteur à accélérer sa mutation.
Et pour les automobilistes, un changement intervient ce 1er novembre. Dans 48 départements montagneux de la Corse aux Vosges, en passant évidemment par les Alpes et les Pyrénées, ils doivent être, les automobilistes, équipés de pneus neige ou avoir des chaînes dans le coffre. Il y aura une saison de tolérance, annonce le ministre de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur. Mais ce n'est qu'une tolérance. Et par exemple, à Gérardmer, dans les Vosges, eh bien, le maire prendra des sanctions dès aujourd'hui, Valentin Dunat.
Stacy Spessman a bien du mal à comprendre cette tolérance pour les automobilistes qui n'auront pas les équipements cet hiver, d'autant que le décret a été publié il y a plus d'un an.
Je ne comprends pas effectivement qu'il soit pas rendu opérationnel immédiatement, hein, quand il y a eu le passage à 80 km/h, quand il y a eu la ceinture de sécurité obligatoire par exemple, on n'a pas donné de tolérance, hein, et du jour au lendemain on a été évidemment obligé d'appliquer ces mesures.
Donc à partir d'aujourd'hui, si vous habitez ou que vous vous rendez à Gérardmer, il faudra équiper votre véhicule de pneus neige ou bien avoir des chaînes à neige ou des chaussettes dans le coffre sous peine d'être sanctionné.
C'est une question de sécurité routière. On en a marre de voir nos routes bloquées par des voitures non équipées, par des camping-cars ou par des camions le matin qui vont se mettre en travers, bloquer nos cols, bloquer les axes principaux qui portent préjudice évidemment à l'économie.
L'amende qui pourra être notifiée par les gendarmes ou les policiers municipaux est de 35 euros. Mais l'an prochain, la loi entrera pleinement en vigueur et elle prévoit une contravention de 135 euros et l'immobilisation éventuelle du véhicule.
Pneus neige ou chaîne requis dans 48 départements. Autre changement pour les automobilistes en ce 1er novembre. Les applis style Waze ne doivent plus en principe vous signaler les contrôles de police, anti-alcoolémie ou stupéfiants localement quand l'État en fait la demande. Ce jour de la Toussaint marque aussi, mais là encore c'est théorique, la fin des terrasses éphémères à Paris. Les bars et restaurants avaient pu les installer pour engranger du chiffre d'affaires après les mois de fermeture. Dans les faits, ici ou là, les négociations continuent, même si certains démontent bel et bien. Damien Mestre, France Bleu Paris.
Les ouvriers s'activent le long des trottoirs pour démonter les terrasses, comme devant ce kebab où Adem, le gérant, regarde son tas de palettes avec un petit pincement au cœur.
Bien sûr, ouais, bien sûr, ça marchait bien. Les clients, ils préfèrent être dehors qu'à l'intérieur.
Des regrets parce que ces quelques bouts de bois rapportaient gros. C'est ce qu'assure en tout cas David, patron d'une pizzeria. Sa grande terrasse éphémère représente plus de la moitié de son chiffre d'affaires. Alors forcément, quand il faut s'en séparer...
Effectivement, on essaie de gagner un peu de temps pour savoir si on peut la garder au moins encore quelques mois. C'est limite vital pour notre restaurant. Il faut qu'on puisse la garder.
Lui a décidé de ne rien démonter. Il fait partie de ceux qui ont déposé un dossier en mairie pour pérenniser la terrasse et la garder tout l'hiver.
On ne sait pas si on a un contrôle demain. On ne sait pas, vu que notre dossier est toujours à l'étude, on ne sait pas si on se prend une amende ou pas. On n'en sait rien en fait. On est dans le flou total.
Et ils sont plus de 1000 comme lui à avoir fait cette demande. Mais au moins la moitié n'ont pas encore eu de réponse et pourraient donc bien, en attendant, garder leur terrasse.
Et aujourd'hui encore entrée en vigueur du gel des prix du gaz. Celui de certaines cigarettes augmente en revanche. C'est le début du mois sans tabac. Début aussi de la trêve hivernale. Plus d'expulsion des logements jusqu'à la fin mars. Et puis la taxe d'habitation baisse d'un tiers pour ceux qui la payent encore. Les spécialistes de jeux vidéo ont parfois l'image d'indécrottables asociaux scotchés devant leur écran. Eh bien, ils savent se montrer altruistes. Tous les ans a lieu le Z-Event. C'est une récolte de fonds dans le milieu du jeu vidéo. Les gamers incitent à faire des dons sur la plateforme Twitch. L'édition 2021 avait lieu ce week-end. 10 millions d'euros ont été récoltés et les joueurs ont décidé de les donner à Action contre la faim. Lucie Codias d'Action contre la faim était aux côtés des joueurs.
Alors là, je vous avoue que c'est vraiment une énorme surprise pour nous. On s'attendait pas du tout à cette somme. C'est super positif de voir en fait ces centaines de milliers de personnes. Il me semble que hier, c'était presque 1 million de personnes connectées en live. Donc on sait que dans ce milieu, c'est des gens très jeunes, voilà, entre je dirais 15 et 35 ans. Et moi, j'ai confiance en cette génération. Ça représente une nouvelle façon d'agir, complètement différente de ce qu'on a pu connaître nous dans le monde des ONG avant. Et c'est une façon d'agir qui est collective, avec beaucoup de petits dons. Il y a beaucoup de dons à 1 euro, par exemple, dans une ambiance vraiment exceptionnelle, vraiment bon enfant, très bienveillante, où il y a beaucoup de rire, beaucoup de moi, ce que j'ai ressenti, c'était beaucoup de joie, alors même qu'on peut parler de sujets graves comme la faim dans le monde, et ça n'empêche pas, en fait, de pouvoir avoir un impact, mais en passant aussi un bon moment, et ça, pour moi, c'est la révolution.
Propos recueillis par Béatrice Duguet, des jeux vidéo au sport physique, le tournoi de tennis de Bercy commence aujourd'hui. C'est le retour sur le circuit du numéro 1 mondial Novak Djokovic, près de 2 mois après qu'il a raté d'un cheveu le grand chelem à l'US Open. Et puis en ces vacances de la Toussaint, on est dans la période des compétitions en salle ou des sports d'hiver. Les Jeux Olympiques d'hiver se tiendront en février dans la région de Pékin. La pandémie a empêché la tenue des traditionnelles épreuves pré-olympiques. Les athlètes découvriront donc en février les sites au dernier moment, mais pas tous. Le pilote de bobsleigh de Grenoble, Romain Heinrich, revient de Chine où il a pu tester pendant 3 semaines la nouvelle piste olympique. Il faut dire, Antonin Kermen, que c'est une procédure obligatoire.
Contrairement aux autres disciplines, pour être validée, la piste de bob doit absolument être testée en amont par les équipages des différentes nations. La Fédération internationale a donc mis en place ces tests et Romain Heinrich vient de passer 3 semaines sur la piste de Yangqing, à un peu plus de 2 heures au nord de Pékin, là où auront aussi lieu les épreuves de ski alpin.
Le site, il est vraiment absolument exceptionnel. Déjà, la région est magnifique. On a pris plein les yeux pendant 3 semaines. La piste de bob, elle doit être à 1200, 1300 mètres d'altitude. Et puis derrière, on voit que ça grimpe quand même assez haut. Il y a du dénivelé, il y a du relief. Ça, il n'y a pas de souci.
En plus de se familiariser avec cette piste qui propose, entre autres, un virage à plus de 360 degrés, le pilote a pu mesurer la rigueur du protocole sanitaire mis en place par les autorités chinoises. Désinfection, gestes barrières, tests, rien n'est oublié.
C'est sûr que ça enlève un petit peu l'aspect convivial. Pour l'instant, en Chine, ils parlent de... pas de spectateurs étrangers, mais des spectateurs locaux, ben, ce sera déjà pas si mal. Et puis on espère que ça nous permettra quand même de faire une belle compétition.
Aujourd'hui, plus qu'une annulation à cause du Covid, Romain Heinrich craint surtout de tomber malade avant les épreuves. Cela ruinerait 4 ans de préparation.
Antonin Kermen, France Bleu, Isère. Dans un instant, la météo, puis l'invité du 13-14, la défenseur des droits, Claire Hédon.
Vous avez remarqué, on ne parle plus de la grippe. Il est vrai qu'on a tous un peu autre chose en tête en ce moment. Et pourtant, elle n'a pas disparu. Elle est toujours aussi imprévisible et toujours aussi dangereuse pour les plus fragiles. Plus de 65 ans, personnes atteintes de maladies chroniques, femmes enceintes, protégez-vous, vaccinez-vous aussi contre la grippe. La vaccination contre la grippe peut se faire en même temps que la vaccination contre le Covid-19. Parlez-en à un professionnel de santé.
L'assurance maladie. Affaires sensibles, l'émission emblématique de France Inter présentée par Fabrice Rouel sur France 2. Ce soir à 22h45, Tcherno Blaye.
Les centrales vieillissent, on peut penser qu'un jour ou l'autre il y aura un accident.
27 décembre 1999, la tempête du siècle frappe la centrale nucléaire du Blayais en Gironde. Passé inaperçu à l'époque, c'est le début d'une nuit d'angoisse où la centrale a frôlé la catastrophe ultime. Tcherno Blaye, une centrale les pieds dans l'eau. Retrouvez Affaires Sensibles ce soir à 22h45 sur France 2, en partenariat avec l'INA.
Le temps de ce jour.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Allez, on commence par le sud de la pluie en Corse cet après-midi.
Oui, le temps est agité en Corse cet après-midi avec des pluies soutenues et même orageuses, alors qu'en Provence-Alpes-Côte d'Azur, le soleil fera son retour après une matinée pluvieuse. Après-midi ensoleillé aussi sur le Languedoc-Roussillon et le long des Pyrénées. Sur le reste du pays, ce sont les nuages qui l'emporteront cet après-midi. Quelques éclaircies arriveront bien à se dessiner, notamment au sud de la Garonne, entre le Lyonnais et le Grand Est, ou entre le Poitou, la Touraine et le sud de la Normandie. En revanche, les nuages seront parfois bien épais, menaçants, et il faut s'attendre à des averses. Le risque d'averses sera plus marqué entre la Vendée, le Finistère et le long des côtes de la Manche, avec des risques risque d'orage. Et puis on attend aussi une ligne d'averse bien organisée entre le nord de la Nouvelle-Aquitaine, l'ouest du Massif central, la région parisienne et les frontières belges. Le tout dans une ambiance plutôt fraîche et ventée. Les températures maximales sont en baisse. Cet après-midi, il fera 12 à 17 degrés sur la majeure partie du pays, 17 à 22 degrés sur les régions de la Méditerranée. Et puis attention, en Corse, le vent va nettement se renforcer cette nuit, notamment sur le Cap Corse. On attend des rafales à plus de 180 km/h.
Ah oui, tout de même. Merci Sébastien Léas, Météo France. Tout de suite, l'invité du 13-14.
France Inter, le 13-14. Bruno Duvic.
Nous sommes aujourd'hui, cela ne vous a pas échappé, lundi 1er novembre, jour de la Toussaint. Demain, le 2, jour des défunts. C'est une période de l'année où nous fréquentons les cimetières un peu plus que le reste du temps. Une période de l'année où l'attention médiatique se porte sur ces lieux qui racontent aussi beaucoup de choses de nos sociétés. C'est cette période que la défenseure des droits a choisi pour appeler à un toilettage, une modification du droit funéraire qui n'est plus adapté, selon elle, à l'évolution des familles. Plus de 200 dossiers sont parvenus ces dernières années sur le bureau du, puis de, la défenseure des droits sur ce thème du droit funéraire. Alors, est-ce que vous avez rencontré des difficultés au moment d'une inhumation, d'une crémation, du renouvellement d'une concession? Appelez-nous pour témoigner ou poser vos questions au 01 45 24 7000 et sur l'appli France Inter, rubrique Réagir. Bonjour Claire Hédon.
Bonjour Bruno Duvic, bonjour à tous.
Défenseur des droits, merci d'être sur France Inter. Vous appelez à ce toilettage, cette modification du droit funéraire, pourquoi cela?
Parce que c'est un droit funéraire qui est complexe et vous l'avez dit, qui n'est plus adapté à l'évolution de la famille. C'est vraiment un sujet qui touche tout le monde et évidemment dans des moments difficiles. De façon très concrète, on pourrait se demander chacun d'entre nous, est-ce qu'on connaît le statut de la concession de nos grands-parents ou de nos parents? Est-ce que c'est une concession familiale ou collective? Et derrière cette question, c'est de façon très concrète, qui peut y être enterré? Et puis la concession que vous avez dans votre famille, elle est pour combien de temps? Est-ce qu'elle est 30 ans, 50 ans, à perpétuité? Et donc ce que nous avons constaté, c'est que c'est à la fois un droit méconnu des personnes, mais aussi des communes. Et c'est un droit qui est complexe et ancien et qui aurait besoin d'être réadapté. Si vous voulez, je peux vous donner quelques exemples.
Allez-y, allons dans le concret.
Une jeune femme qui vient régulièrement sur la tombe de son père décédé, et puis au cours d'une visite au cimetière, et c'est souvent aux alentours du 1er novembre que ça arrive. En fait, ces situations, elles arrivent ou au moment des visites au cimetière autour du 1er novembre, ou bien au contraire au moment du décès de la personne, donc dans des moments difficiles. Et cette jeune femme, elle s'aperçoit que la tombe a disparu. Cette sépulture, elle était située en terrain commun et elle avait fait l'objet d'une procédure de reprise par arrêt municipal, ce qu'avait le droit de faire, mais sauf que la jeune femme n'avait pas étaient tenus au courant, parce que très souvent, en plus, les personnes n'habitent plus sur la commune. Ouais. Et donc, sont parfois difficiles à joindre, ont déménagé, et la commune n'arrive pas à les joindre. Voilà des exemples concrets auxquels on est confronté. Ou bien, dans des cas de divorce, un ex-conjoint qui veut être enterré avec son enfant, qui est dans une concession qui appartient à la belle famille. Oui. Et ben là, dans ces cas-là, le droit n'est plus adapté.
Et ce qui complexifie encore les choses, c'est effectivement l'évolution des familles, les PACS, les familles recomposées, les différentes formes de mariage, qui rend tout cela plus complexe et là encore découvert au moment de la Toussaint ou au moment d'un décès.
Voilà, et c'est toujours découvert à un moment qui est douloureux, délicat, dans lequel les familles peuvent être en conflit, mais pas toujours, tant d'entre elles sont parfaitement d'accord. Oui. Mais la concession, comme je vous disais par exemple tout à l'heure, elle était collective. Et collective, ça veut dire que celui qui l'a créée a vraiment indiqué qui peut être enterré dedans. Oui. Familial, ça veut dire effectivement c'est parents, enfants, grands-parents, mais les ex-conjoints, les personnes qui sont concubins, qui ne sont pas forcément paxées avec un titre légal. Un certain nombre de difficultés dont les gens ne sont pas au courant avant, dont il faut informer mieux, ça fait partie de nos préconisations, et simplifier ce droit funéraire.
Mieux informer, simplifier, oui. Allez-y. Oui.
Et là-dessus aussi, ce qui est intéressant dans ce qu'on a pu constater, dans ce qu'on a traité jusqu'à maintenant, c'est que la médiation se révèle particulièrement intéressante pour traiter ces litiges. Parce que, de fait, très souvent, il n'y a pas possibilité de rétablir la personne dans ses droits. Parce que quand, justement, il y a eu une crémation des restes funéraires, il n'y a plus possibilité de rétablir. Et donc, dans ces cas-là, une médiation est intéressante parce qu'elle permet soit d'attribuer à la famille une nouvelle concession, soit d'indiquer une plaque. Et c'est donc là, on voit bien par le dialogue et la médiation qu'on arrive à résoudre plutôt que dans ces cas-là aller devant les tribunaux, ce qui peut être long.
Alors puisqu'on est dans le concret, qui mène la médiation, vers qui se tourne-t-on ?
Alors, nous, on a fait plusieurs fois des médiations dans des situations comme celle-là et des médiations réussies. Vous savez, quand on mène des médiations, dans les trois quarts des cas, les médiations aboutissent. Et dans ces situations, en général, elles aboutissent. Mais ce qui nous frappe à chaque fois, c'est cette méconnaissance du droit, mais aussi parce que le droit est trop complexe. Et si vous voulez bien, j'aimerais bien dire aussi un mot des personnes en situation de pauvreté.
Alors, allons-y et puis on ira au standard ensuite.
Oui, parce qu'elles se trouvent confrontées, ces personnes, en fait, à deux problèmes. D'abord, elles ont peur de voir inhumer leurs proches dans une sépulture gratuite qui est un peu perçue comme la fosse commune, avec une dimension à la fois stigmatisante, temporaire. Et elles ont la crainte de ne pas pouvoir financer les frais d'obsèques, qui sont à la fois l'inhumation plus l'acquisition d'une concession, et elles risquent de s'endetter. Et le Code général des collectivités territoriales prévoit que les services des pompes funèbres ont de fait une mission de service public, et c'est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes. Mais il faudrait clarifier cette notion de ressources suffisantes et vraiment de manière à assurer à tous des obsèques dignes. C'est bien ça la demande de tout le monde.
Et ça non plus, ça n'est pas forcément connu de tout le monde. Nous allons au standard. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui, merci de prendre ma question. Je vais essayer d'être concis parce que c'est une histoire un peu compliquée. Donc mes parents qui sont décédés il y a bien longtemps avaient pris une concession dans un cimetière parisien de 30 ans qui expirait en 2010. Donc à l'époque, le syndicat qui gère ce cimetière m'avait demandé si je désirais la renouveler et pour des raisons qui m'appartiennent, je n'ai pas souhaité la renouveler. Or, un ou deux ans après, je ne sais plus exactement, quelqu'un de ma famille qui passait dans ce cimetière a constaté que non seulement la tombe était entretenue mais qu'elle avait été ouverte. Du coup, elle m'en a prévenu, j'ai donc appelé le syndicat, et là, stupéfaction, j'ai appris que la concession avait été reprise par une nièce avec laquelle je n'ai plus aucun rapport depuis longtemps, d'une part, et deuxièmement, quand elle m'a demandé de me présenter, je lui ai dit « je suis Pierre », etc., et elle m'a dit « mais excusez-moi monsieur, on nous a dit que vous étiez décédé ». Voilà, donc j'étais quand même un peu estomaqué, et du coup, je voulais savoir d'abord si c'est légal, bien entendu, et deuxièmement si j'ai un éventuel recours, puisque l'affaire court toujours depuis, quoi. Voilà.
Merci Pierre pour ce témoignage. Claire Hédon, qu'est-ce qu'on peut répondre à notre auditeur?
C'est toujours très difficile de répondre bien comme sûr, ça sans avoir évidemment absolument tous les éléments. Mais dans ces cas-là, vraiment, moi, je vous incite à nous saisir pour qu'on puisse instruire. Et je vous le dis souvent, par la médiation, on peut aboutir à des solutions.
Et précisons-le, pour vous saisir, le plus simple, c'est d'aller sur le site du Défenseur des droits.
C'est plusieurs solutions. Allez sur le site Internet. Mais vous savez que nous aussi, on est pour qu'il n'y a pas que la dématérialisation est une chance pour
certains.
On
en a déjà parlé.
On en a déjà parlé. Mais on peut aussi joindre un délégué. On peut aussi nous appeler. Donc, il y a vraiment plusieurs solutions pour nous saisir. Mais c'est vraiment... si vous voulez essayer surtout de clarifier la situation, c'est important. Ce qui est compliqué juste dans votre situation, c'est qu'effectivement, vous avez accepté le non-renouvellement de la concession. Après que ait été répondu à votre nièce que vous étiez décédé, ça effectivement il y a un dysfonctionnement majeur puisque vous ne l'êtes pas, mais vous avez accepté le non-renouvellement de la concession à un moment, et c'est quand même à noter que vous avez été prévenu du renouvellement de la concession, et ce souvent sur quoi on est saisi, c'est que les personnes ne sont pas au courant du non-renouvellement de la concession. Et je vous dis, la question à poser à tout le monde, et vous pouvez tester autour de vous, les gens ne savent pas la concession des grands-parents ou des parents, de quelle durée elle est, ni de quelle forme.
Qui doit mieux informer? C'est les communes qui doivent mieux informer les familles?
Oui, je pense qu'au moment de l'ouverture de la concession, il faut vraiment donner tous les éléments et expliquer dans le détail ce que ça veut dire que collectif ou familial, et être le plus précis possible, parce que c'est comme ça qu'après il y a des risques de confusion. Mais ce que je vous dis, c'est que dans nos recommandations, c'est aussi d'aménager ce droit funéraire pour le rendre plus lisible et compréhensible.
Et comment peut-on le rendre plus lisible et compréhensible? Il y a un ou deux détails qui permettraient très rapidement de clarifier les choses.
Oui, je pense entre autres de bien définir quand quelqu'un acquiert une concession, de quel domaine elle est, c'est-à-dire justement si elle est individuelle, collective ou familiale, et ce que ça entraîne comme droit ou comme exclusion possible, et que ce soit précisé aux personnes. La chose qui est difficile, c'est que souvent aussi les gens ouvrent des concessions au moment du décès de quelqu'un, et c'est pas le moment où c'est le plus facile, je dirais, d'écouter et de comprendre les gens. Mais il y a un certain nombre de personnes qui s'y prennent à l'avance, et dans ces cas-là, c'est important que ce soit mieux clarifié.
Françoise au standard de France Inter. Bonjour Françoise.
Oui, bonjour, merci de prendre mon appel.
Je vous en prie.
Donc voilà, moi justement je prends les devants, et ma mère souhaite être enterrée dans sa commune de naissance, mais elle n'y réside pas, Et donc, la mairie me donne quand même l'autorisation d'acheter éventuellement une concession. Mais les pompes funèbres générales me disent que nous sommes hors la loi, que c'est interdit, en fait, d'être enterré dans une commune quand on n'y réside pas. Donc, je voulais savoir qui en est plus réellement.
Claire Hédon.
Pas du tout, madame. Oui, c'est au contraire votre commune qui a raison. Elle peut tout à fait, il n'y a pas besoin d'un critère de résidence pour obtenir une concession dans un cimetière. Il est vrai que la commune peut parfois refuser par manque de place, comme argument, mais là, en l'occurrence, la commune vous l'accorde, et donc vous êtes tout à fait dans votre droit, et la commune applique tout à fait le droit en vous permettant d'acquérir une concession dans ce cimetière.
Il ne faut pas...
Soyez rassurés.
Alors là, c'est la commune de naissance, donc il y a un lien. Il faut forcément un lien
non,
ou pas ?
Pas forcément. Bon. Non, pas forcément. Par contre, vraiment, la commune a le droit d'invoquer le manque de place, et il faut reconnaître qu'il y a des endroits où c'est le cas.
Alors, c'est la question que j'allais vous poser. Celle du manque de place se pose dans beaucoup d'endroits ou pas ?
Ça se pose dans un certain nombre d'endroits, pas du tout partout, mais c'est vrai que ça se pose dans un certain nombre d'endroits. Et c'est bien pour ça qu'il y a, quand des concessions ne sont pas entretenues, parce qu'en fait, quand je vous ai dit qu'il y avait des concessions à perpétuité, c'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire que si la concession n'est pas entretenue, la mairie peut procéder effectivement à une suppression d'une concession, aussi pour ces questions de manque de place, et permettre à quelqu'un d'autre de l'acquérir.
Bilal au Standard de France Inter, bonjour Bilal. Est-ce que vous êtes au bout du fil ? Vous êtes conseiller funéraire, me dit-on ?
Exactement, oui, conseiller funéraire, donc pour une société que je ne vais pas citer. Mais alors le débat est en présent, et c'est vrai qu'on a peu l'occasion de parler funéraire, je trouve, en France, malheureusement. Alors le sujet est encore tabou,
oui.
Mais évoluant dans le métier, alors moi je voulais revenir sur deux points. Alors le premier, c'est que moi j'ai été formé donc pour le métier, parce qu'il faut savoir qu'il faut être diplômé pour être conseiller funéraire et pouvoir conseiller les familles. Et aujourd'hui, les familles, elles viennent vers nous, en fait, prendre les informations avant le cimetière. Mmh. Et il est très courant que même nous, auprès des communes, on a vraiment du mal à s'y retrouver pour plusieurs éléments qui sont que chaque cimetière, chaque commune fixe ses règles. Alors, c'est une réalité aujourd'hui, on a du mal à l'avouer, mais dans le funéraire, on a une réglementation qui est très ferme, hein, notamment comme le spécifie, donc je crois que c'est Françoise, par rapport au lieu de naissance. Alors c'est pas toujours le cas pour le lieu de naissance, c'est plutôt le lieu d'habitation ou de décès en effet qui prime. Mais à ce jour, moi, dans mon expérience, je peux affirmer que c'est refusé par certaines communes et qui ne
justifie pas
vraiment qui n'ont pas de justification, parce que je veux bien comprendre que parfois il y a un manque de place dans les cimetières, mais il faut savoir qu'il y a des communes où il y en a 3 ou 4 des cimetières, et comme par hasard d'autres communes qui ont qu'un seul cimetière et qui tiennent à en garder un. Alors moi aujourd'hui, en fait, si je prends la parole, c'est juste pour mettre en avant le fait que la réglementation funéraire, elle est là, et en effet elle est très vieillissante. Il faut savoir que la dernière réforme date vraiment de celle qui a vraiment changé la réglementation funéraire, que ce soit pour les inhumations ou les crémations. Mais à ce jour, on a vraiment beaucoup de mal, nous, conseillers, et même pour les familles, pour les conseillers, de donner une règle établie, parce que chaque commune fait ce qu'elle veut dans ce domaine. Et je trouve ça très, très dommage.
Merci, Bilal, pour ce témoignage. Dans la simplification du droit, Claire Hédon, est-ce qu'il n'y aurait pas une règle assez simple qui consisterait à dire qu'on fait partout pareil ?
Oui, tout à fait. Mais je trouve que c'est très intéressant ce qui vient d'être dit, parce qu'effectivement, il y a de quoi s'y perdre dans la mesure où chaque commune fixe ses règles. Alors, il peut y avoir des adaptations dans chaque commune, mais il faudrait un minimum de règles communes si on veut que ce droit soit plus lisible, et que surtout aussi les personnes aient des recours s'il y a un désaccord. Donc, on va tout à fait dans le même sens.
Merci Claire Hédon d'avoir participé à ce 13-14, et donc on peut voir l'intégralité de votre rapport sur cette question sur le site du Défenseur. On peut aussi vous joindre au téléphone si on n'a pas Internet, parce que tout le monde n'a pas Internet. 13h43.
France Inter. Le 13-14.
À suivre, le vif de l'histoire dans 10 minutes. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
Vous vous intéressez à une autre tombe, celle de Montaigne.
Bah oui, l'a-t-on retrouvé, documentaire à la télé ce soir.
On regardera ça et on suivra ça avec vous dans 10 minutes. Avant cela, le feuilleton jusqu'à vendredi, une semaine dans la vie d'un tiers-lieu. Ces endroits où, entre start-up, associations, initiatives, on invote, on innove et on crée du lien. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Alors que la COP26 s'ouvre à Glasgow, le climatologue Jean Jouzel, ancien vice-président du GIEC, est à votre micro le temps d'une chanson.
Jean Jouzel, l'un des meilleurs experts internationaux de l'histoire du climat, est l'un des premiers à avoir identifié les causes du réchauffement de la planète, les gaz à effet de serre, pour partie liés aux activités humaines. Aujourd'hui, c'est donc l'une des figures emblématiques de la lutte contre le réchauffement climatique, une référence mondiale. Ce qui n'est pas, en revanche, en matière de chansons, il me l'a confié lui-même, et sans peine, il écoute très très peu de musique.
Par exemple, j'ai pas toujours des écouteurs comme les jeunes, là, aux oreilles. Donc, je suis pas très bon mélomane, Frédéric. Et quand j'écoute, alors si, il m'arrive d'écouter, mais j'en suis resté à ma jeunesse. Bon, ben, c'était quand même la grande époque de Jacques Brel, voilà. C'était quand même bien, Brel, non? Moi, ça a bercé ma jeunesse. Ce qu'écoutent mes petits-enfants, j'y connais rien. C'est pas bien, mais c'est vrai.
C'est vrai qu'il fait un temps superbe pour un dimanche de février. Il y a ceux qui bronzent déjà sur l'herbe et ceux qui s'inquiètent des degrés. Les éléments sont en colère et les décideurs font la loi. Quand un expert montre la terre, l'industriel regarde le doigt. Et quand il rentre à la maison, il dit franchement, il n'y a plus de saison. Pendant que des mecs en costard nous garantissent que tout va bien, on se demande s'il est trop tard et ce qu'on peut faire au quotidien. Tous ensemble sur le même bateau, les femmes et les enfants d'abord. Y'a qu'à regarder les infos, les drames, les ouragans dehors. Les incendies sont en option. Non mais franchement, y'a plus de saison. Y'a plus de saison. Y'a plus de saison. C'est ma grand-mère qui avait raison. Y'a plus de saison, y'a plus de saison. Le ciel est noir à l'horizon.
Bon, finalement, c'est pas Jacques Brel, c'est le jeune Gauvin Serre, ce que Jean Jouzel a choisi de nous faire écouter.
Il n'y a plus de saison. Une chanson de 2019, chanson toute récente, donc. Ouais. Dans le clip, on le voit, Gauvin Serre jouait le rôle d'un vendeur de glace dans un Paris dont les habitants ont affreusement chaud. Cette chanson veut alerter, réveiller les consciences, et c'est évidemment ce qui plaît à notre climatologue.
Elle est vraiment, disons, très adaptée à l'ouverture de cette COP26. Le fait qu'il n'y a plus de saison, effectivement, dire qu'on fait très beau en février, on nous fait imaginer, non pas l'été, peut-être pas, mais ensuite, à la fin, disons le printemps en automne, ben, c'est quelque chose qui risquerait d'arriver, des hivers très cléments, avec un réchauffement qui serait pas maîtrisé. Et puis, moi, j'ai bien aimé, surtout, il pointe du doigt le responsable. En gros, vous regardez ailleurs, vous regardez le petit doigt qui montre la planète. Voilà, où les gens en costard, moi, j'ai retenu tout ça, et ça reste un peu guindé, disons, ces négociations, et... C'est peut-être loin de ces générations qui vont faire face. Et ce que nous dit Gauvin Serre, c'est, il parle d'ouragan, de feux de forêt, bien sûr, tout cela est évoqué. Le message est très fort, il s'inscrit vraiment dans cette conférence, c'est-à-dire, en gros, il faut y aller, il faut que les décideurs politiques, économiques, soient à la hauteur de l'enjeu.
On regarde nos mômes jouer aux billes dans les caniveaux de la planète. On s'inquiète du soleil qui brille comme une épée au-dessus de leur tête. Qu'est-ce qu'il en sera dans 100 ans? Est-ce que la Terre pourra tourner quand leurs automnes seront nos printemps, quand leurs hivers seront nos étés? Et aux futures générations, est-ce qu'on va demander pardon? Y'a plus de saison, y'a plus de saison, c'est ma grand-mère.
Cette chanson, elle vous fait chaud au cœur?
Oui, la chanson de Gauvin Serre me fait chaud au cœur, parce que vraiment les messages sont ceux que j'aime essayer de donner en tant que scientifique. Des messages sur la réalité du réchauffement climatique, de ses conséquences. Gauvin Serre, c'est très clair, hein, il n'y a plus de saison, voilà. Et puis aussi sur l'espoir qu'il donne quand même. Disons, avec cette chanson, on a envie d'agir. C'est quand même intéressant, moi je suis chercheur dans ce domaine depuis une cinquantaine d'années maintenant. J'ai beaucoup participé au rapport du GIEC, mais je pense que c'est aussi important qu'il y ait des passeurs comme Gauvin Serre. Donc je suis très en phase avec cette chanson que j'aime bien.
Il n'y a plus de saison, Gauvin Serre. C'était donc, Frédéric, le choix du climatologue Jean Jouzel, qui n'a pas en permanence un casque audio autour du cou.
Ben non, et Jean Jouzel qui sera présent la semaine prochaine à Glasgow pour la COP26 qui se déroule jusqu'au 12 novembre.
Merci Frédéric Pommier, 13h49. Dans le feuilleton jusqu'à vendredi, nous allons passer une semaine dans la vie d'un tiers-lieu. Ce sont des endroits où se réinvente à bas bruit la société. Ils accueillent à la fois des entrepreneurs, des associations, mélange de nouvelles technologies, d'esprit écolo, d'action sociale. Le Premier ministre a récemment présenté un plan pour favoriser leur développement. On en compte environ 2500 en France. Certains sont au cœur des métropoles, d'autres en zone rurale, où ils jouent un rôle clé pour la revitalisation de communes endormies. Et c'est dans un de ces tiers-lieux, là, que Yann Gallic nous emmène cette semaine à Sainte-Foy-la-Grande, en Gironde. 2600 habitants à 80 km à l'est de Bordeaux. Le tiers-lieu s'appelle Cœur de Bastide. Et dans ce premier épisode, Yann et ses interlocuteurs nous racontent la création du lieu il y a une dizaine d'années, l'enthousiasme immédiat et l'essor assez spectaculaire.
Eh bien, bienvenue à Cœur de Bastide. Je m'appelle Patricia Jutiot, je suis coordinatrice de projet à Cœur de Bastide et administratrice.
Donc là, au rez-de-chaussée, c'est un grand espace ouvert.
Voilà, c'est un grand espace ouvert avec un café associatif, avec une zone d'exposition. Vous avez sur la gauche la petite librairie, puisqu'il n'y avait plus de librairie à Sainte-Foy. Le bâtiment en tout fait 789 mètres carrés. Tout est plein tout le temps, on est presque à la limite de la saturation.
Je crois qu'il y a un baby-foot aussi.
Il y a un baby-foot, donc ça c'est des dons. On nous a donné beaucoup de choses. On a toute une salle de cinéma qui nous a été offerte. C'est vraiment un vrai partage.
Vous faisiez quoi, vous, avant, Patricia ?
J'ai été coordinatrice générale de projet européen pendant 16 ans. Et après, j'ai eu une entreprise qui s'appelait paysan.fr qui distribuait de la nourriture sur toute la France en colis froid. Maintenant, je suis à la retraite et je travaille à Cœur de Bastide beaucoup d'heures. Mais par contre, c'est une passion. C'est une passion. Mais c'est-à-dire, quand on voit le résultat, ça donne vraiment envie de se lever le matin.
Marc Sarraoui, vous êtes l'un des fondateurs de ce tiers-lieu. Vous l'avez créé en 2012. Au début, vous étiez combien ?
On était une dizaine. Il y avait 6 commerçants et 4 membres habitants de Sainte-Foy-la-Grande ou responsables d'associations à Sainte-Foy-la-Grande. En 2012, il y avait un environnement économique très négatif pour le centre-ville, qui était un petit peu déserté, parce qu'il y avait ouverture d'un grand centre hypermarché en rocade. Il n'y avait pas vraiment le moral à Sainte-Foy-la-Grande, donc les commerçants de centre-ville sont regroupés. Ils se sont demandé qu'est-ce qu'on pourrait faire et nous qui ne sommes pas commerçants, on leur a dit que c'est intéressant de travailler ensemble, mais pas sur une association de commerçants normale, de regrouper à la fois des commerçants, des associations culturelles, d'animation, des habitants et de travailler tous ensemble sur la revitalisation de Sainte-Foy-la-Grande, la redynamisation du centre-ville. Ça a pris très vite. Une grande réunion s'est faite dans la salle municipale. Il y avait 200-300 personnes. Les idées ont fusé un peu de tous les côtés. On a fait un appel à projet. Chacun a proposé des choses toutes simples et on a commencé à travailler tous ensemble. 2013, on commençait les premières activités, les premières animations. 2014, et puis petit à petit, on s'est rendu compte que ces animations ne suffisaient pas. Tout le monde avait envie de faire plus. Donc on s'est dit, il nous faut un local. Donc on a lancé un appel en disant, il y a 2 locaux qui sont intéressants à Sainte-Foy et est-ce qu'il y a des particuliers qui sont prêts à rentrer dans une société civile immobilière ensemble ? Tout de suite, en quelques jours, il y a une dizaine de personnes qui ont dit on lance. On est allé voir le notaire, on lui a dit, on va faire une SCI. Derrière ça, l'achat s'est fait et le bâtiment a été restauré en 2-3 mois avec beaucoup d'heures de bénévolat. Et un premier soutien qui nous a beaucoup aidé à ce moment-là, celui de la Fondation de France. Et aujourd'hui, Cœur de Bastide, c'est 40 associations, 400 membres, 7 salariés. C'est un budget qui fait à peu près 150 à 200 000 euros chaque année, auquel contribuent les ministères, les départements, la région, et également les fondations. Donc on est vraiment sur un projet citoyen qui, doit se transformer tous les jours un petit peu pour s'adapter à la demande.
Tiers-lieu Cœur de Bastide, près de Bordeaux, avec Yann Gallic jusqu'à vendredi. Le feuilleton est réalisé par Lucie Lemarchand.
France Inter, le 13-14.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire. En cette période où nous pensons un peu plus que de coutume aux tombes, vous vous intéressez à un documentaire à la télévision ce soir à propos d'un de nos grands écrivains, Montaigne, le tombeau mystérieux.
Alors, l'auteur des essais est mort en 1592. Sa fille a fait déposer son cœur dans l'église de son village. Sa veuve a transféré le corps à Bordeaux, au couvent des Feuillants. Puis, en 1593, il a fait édifier un cénotaphe. Cénotaphe, C'est pas une tombe, hein, c'est un monument funéraire, Bruno.
Bien, je note.
Le cénotaphe est toujours visible, malgré les bouleversements qu'a connu l'endroit. Transformation en lycée, puis en faculté, enfin en musée d'Aquitaine. En revanche, on avait perdu la trace de la tombe. En 2019, des fouilles entreprises dans les sous-sols de la réserve du musée permettent de retrouver un cercueil de bois portant une plaque Michel de Montaigne et contenant un cercueil de plomb qui laisse voir par ses fêlures des os de jambes. Le documentaire présente toutes les questions qui se posent après l'investigation. Est-ce qu'on a retrouvé des descendants de Montaigne pour étayer les analyses d'ADN? Est-ce qu'on a retrouvé quelques-uns des calculs rénaux dont se plaignait l'écrivain? Il faisait la collection de ces calculs de son vivant. Je vous laisse regarder le documentaire, mais attention, il ne passe que sur France 3 Nouvelle-Aquitaine.
Alors, imaginons qu'il laisse bien des pistes ouvertes. Reste le cénotaphe.
Alors, le musée d'Aquitaine, qui décidément sait faire parler de lui, l'a restauré grâce à une campagne de levée de fonds privés. Mmh. Il représente un gisant en armure, dont les pieds reposent sur des lions. On n'a pas nécessairement cette image de l'auteur des essais quand on imagine plutôt arpenter de long en large sa bibliothèque, dictant ses essais en même temps qu'il observe tranquillement la vie de son domaine. Mais, après tout, dans l'époque où il a vécu, mieux valait sortir couvert.
Époque des guerres de religion, l'historienne Anne-Marie Cocula, qui a participé au documentaire de France 3, dit que dans ces années, la guerre civile s'était mise en ménage avec la disette.
Jolie formule, il est très bien écrit, le livre de Cocula. Pour bien marquer qu'en quelques mois, on pouvait vivre les expériences les plus extrêmes, elle consacre donc ce livre tout entier, chez un éditeur de Nouvelle-Aquitaine, cœur de Bastide, hein, Fanlac, à la seule année 1588 dans la vie de Montaigne.
Un seul livre sur 1588
dans Montaigne la vie de Montaigne. Montaigne a décidé de partir de sa tour, tranquille, où il se voulait bon ménager de sa seigneurie pour rejoindre Paris. Il a pris la précaution de se faire escorter par le fils du maréchal de Matignon, qui n'était pas rien, puisqu'il était ce maréchal lieutenant général du roi Henri III en Guyenne. Il n'empêche, longueur et hasard des chemins font que la petite troupe est détroussée aux confins du Périgord et de la Charente. Montaigne manque d'y perdre la version longue des essais qu'il allait faire éditer pour la première fois à Paris et qu'il conservait dans la selle de son cheval, semble-t-il. Paris, qui va l'effrayer alors qu'il l'aime tendrement. Montaigne se réjouissait de voir le chantier du Pont-Neuf, mais il le trouve interrompu par les troubles. Les ligueurs catholiques qui dénoncent la pestilente sédition des protestants accusent le roi Henri III de la protéger. Vous voulez pas mon anagramme, Bruno? Henri de Valois s'est transformé en vilain Hérode. Vous savez, le tyran Hérode de l'Évangile, anagramme. Henri III doit d'ailleurs fuir sa capitale peu après l'arrivée de Montaigne, qui, loyal et préoccupé de le rapprocher d'Henri de Navarre, l'héritier désigné, le futur Henri IV, le suit à Rouen. Oui, il se passe beaucoup de choses en 1588, d'autant que revenu à Paris, Montaigne est embastillé, miraculeusement une journée seulement. Enfin, il rejoint Blois, où Henri III a convoqué ses états généraux qui vont s'avérer calamiteux.
Et 1588 continue?
Oui, alors Montaigne n'a qu'une hâte, c'est retrouver sa tour.
On le comprend.
Mais la sécurité de son domaine est rien moins qu'assurée. Il suffirait que les bandes de ligueurs du Bordelais et du Périgord fassent leur jonction. Qu'adviendrait-il de lui, réputé loyal à Henri III et qui a reçu le futur Henri IV par deux fois? Lui parvient au printemps 1589 la nouvelle de la mort terrible de son collègue Duranty, parlementaire comme lui, mais à Toulouse. La foule, dite catholique, l'a lynché et a accroché son corps sur une grille de fer avec au cou une caricature d'Henri III. Revient aussi à Montaigne le souvenir de ses 15 ans, là c'était à Bordeaux, et le représentant du roi avait été massacré et mutilé non loin de lui. Alors on comprend le choix de l'armure pour la dernière image de Montaigne. Et si vous voulez une leçon, il semble que dorénavant faire de la politique, c'est devoir choisir sa guerre civile, guerre des générations, des gens, des races. Montaigne refusait cette vision aussi dangereuse que paresseuse parce que lui savait d'expérience ce qu'est la guerre civile.
Et c'est lui qui disait que tout le malheur des hommes vient de ce qu'ils ne savent pas quitter leur chambre, c'est ça? Sur France 3 Nouvelle-Aquitaine, donc le document Montaigne, le tombeau mystérieux, et chez Fanlac, éditeur local, le livre d'Anne-Marie Cocula, Montaigne 1588.